Alors ce matin, nous arrivons au terme d'une série de 10 prédications. Et je demande pardon par avance parce que je ne vais pas vous proposer une prédication textuelle, exégétique, comme j'aime le faire, mais je vais essayer de revisiter, en fait, de rappeler le chemin que nous avons parcouru et juste apporter un ou deux textes en guise d'ouverture, d'envoi vers la prochaine étape. Alors, si Joseph est avec moi, il va pouvoir suivre avec moi donc, le support que j'ai préparé. Merci beaucoup. La question qui nous a préoccupés jusqu'à présent est la suivante. Qu'est-ce qu'un disciple spirituellement et émotionnellement saint? Cette série, étayée par la réflexion de Peter Scazzero, que je ne vous présente plus, mais pour ceux qui nous rejoignent, un auteur chrétien, pasteur, conférencier, qui a beaucoup travaillé avec Géry, son épouse, hein, autour de cette question de la spiritualité, hein, articulant spiritualité et vie aussi émotionnelle, hein, un fruit de sa longue expérience pastorale, pour aider les chrétiens à identifier les failles qui empêchent de vivre une vie de disciple en profondeur, spirituellement saine, émotionnellement libérée, saine, arrosée de la parole de Dieu, vivifiée par l'Esprit Saint. Donc cette série nous a amenés à poser un certain nombre de balises, comme tout au long d'un parcours. Et peut-être que vous n'avez pas perçu le fil conducteur, mais je crois que beaucoup l'ont perçu. Nous avons posé 7 balises. La première balise, c'est Loïc qui nous l'a introduite en nous encourageant à être avant de faire. Pour une spiritualité saine, y compris émotionnellement, celui ou celle qui veut vivre en disciple spirituellement saint doit, avant de faire pour Dieu, comme Marthe, apprendre à s'asseoir aux pieds de Dieu. Choisir tous les jours que Dieu a créé la bonne part qui ne nous sera pas enlevée. Et comme Marie plutôt, choisir cette bonne part. Et comme Marthe, c'est le prénom de ma maman, c'est pourquoi elle est venue en premier, d'autant que j'ai quitté mes notes. Cette communion aux pieds du Seigneur Jésus, cette communion d'apprentissage se traduit nécessairement aussi par le service du Seigneur et de ses frères et sœurs. Ensuite, une deuxième balise que j'ai posée à la suite de Loïc, c'est que le disciple qui veut vivre une vie spirituelle et émotionnellement saine doit se défaire des images d'un Jésus, on a dit américanisé, parce que l'auteur est américain, mais on peut l'européaniser. C'est-à-dire un Jésus imaginaire, un Jésus fantasmé, un Jésus sans la croix, un Jésus sans la souffrance, un Jésus machine à distribution des gâteries, des sucreries, de tout ce qui nous fait du bien. Et donc nous avons vu qu'un disciple spirituellement et émotionnellement saint suit. Ça va. C'est fini. Ah, c'est fini. Voilà, bravo, fini. On peut applaudir pour cet effet spécial. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est fait. Il suit Jésus, le crucifié et le ressuscité. Autrement dit, il assume la souffrance comme faisant partie également de la vie et de la vie avec le Christ. Notre frère, le pasteur Norbert, est intervenu sur une troisième balise. Accepter joyeusement les limites que Dieu nous a données dans une société où constamment nous jouons à être des dieux ou comme Dieu, où constamment on flatte et nourrit notre ego et nous maintient dans une sorte d'illusion de la toute-puissance. Notre frère Norbert nous avait rappelé dans une magnifique méditation du psaume 139 que seul Dieu était tout-puissant, omniscient, omniprésent, et qu'il nous invitait pas toujours à franchir nos limites, mais à les accueillir comme un don, qui nous rappelle aussi combien pour notre saine, j'ai envie de dire, santé spirituelle, nous avons besoin de demeurer dépendants du Dieu Tout-Puissant, sans devenir, sans nous prendre nous-mêmes pour les Tout-Puissants. La quatrième balise sur laquelle j'ai enseigné il y a déjà quelques semaines, nous invitait à découvrir les trésors cachés dans les chagrins et les deuils. Et nous avons vu que l'itinéraire du disciple peut être un itinéraire heurté par la souffrance, heurté par l'épreuve douloureuse de la perte de la santé, d'un être cher, d'un couple, d'une situation professionnelle, d'un lien significatif. Mais que le disciple, au pied du maître, allait recevoir dans son contexte les ressources lui permettant de naviguer à travers les différentes étapes du deuil, en se laissant transformer, non pas par l'épreuve du deuil simplement, mais aussi par l'agir de Dieu à travers l'épreuve du deuil pour poursuivre la vie et continuer d'être ce disciple qui bénit le Seigneur. Ensuite, il y a eu une cinquième balise, c'était notre frère Vincent, qui nous a enseigné à partir de l'épître de Jean, chapitre 4, sur l'importance d'orienter nos vies vers le double commandement d'amour. Aimer Dieu de tout notre cœur, tout notre être, toute notre force, toute notre pensée, et aimer aussi notre prochain comme nous-mêmes. Et à mettre ou à faire de ce critère du double commandement de l'amour le critère de la bonne santé spirituelle et de la maturité spirituelle, sans jamais séparer les deux comme dans une croix, comme sur la croix, voilà, une verticalité et une horizontalité. Ensuite, notre frère Fred Perrier, il y a quelques semaines, nous a conduit dans une réflexion autour de la thématique de comment pouvons-nous servir le Seigneur en acceptant notre vulnérabilité. Il nous a rappelé avec l'Écriture que le Seigneur a choisi les choses faibles et folles aux yeux du monde pour confondre ceux qui, selon le monde, se croient puissants et sages. Il a déposé en chacun de nous, vase d'argile que nous sommes, l'immense trésor de sa gloire, précisément afin qu'aucun de nous ne se glorifie lui-même, mais qu'à travers notre vulnérabilité, le Seigneur soit glorifié. Et je lui ai emboîté le pas avec une autre balise, briser le pouvoir du passé et guérir de nos blessures. Et à travers l'histoire de Joseph, nous avons vu comment la parole de Dieu peut nous donner des ressources pour ne pas rendre le mal par le mal, nous dit l'apôtre Paul, mais au contraire, comment être vainqueur sur le mal par le bien. Et nous avons vu à travers l'histoire de Joseph la fidélité de Dieu, mais également comment est-ce que Joseph a pu laisser le Seigneur guérir ses blessures, expérimenter la puissance de l'amour de Dieu qui nous guérit, et aussi la puissance du pardon qu'il a dû, le moment venu, manifester à ses frères qui lui avaient fait tant de mal. Cette balise que nous avons traversée en un trimestre pour répondre à la question: qu'est-ce qu'un disciple?
ou qu'est-ce qu'une spiritualité saine, y compris émotionnellement. Ce matin, il ne s'agit pas tant de mettre un point final à notre réflexion que d'en mettre deux. Alors, ce n'est pas deux points finaux, mais deux points superposés. Deux points superposés parce que la langue française, comme d'ailleurs beaucoup de langues, a ceci d'intéressant qu'il faut pas seulement la parler, mais il faut en comprendre la grammaire et les règles. Quand nous faisions nos études à la faculté de théologie, les professeurs nous mettaient bien en garde de ne pas passer pour des hellénistes parce qu'on lisait quelques mots du grec et qu'on pouvait prendre un dictionnaire en disant « en grec ça veut dire ça, donc en français ça veut dire ça » sans comprendre la grammaire et comment elle fonctionne. Et c'est pareil pour l'hébreu, pour l'allemand, pour le... voilà. Et comme ce n'est pas ma langue maternelle, le français, il se trouve que jeunes, nous avions des cours, je me souviens d'un cours qui s'appelait « Expression et maniement de la langue française ». Je pense que je ne m'en sors pas très mal. Alors j'ai appris que ces deux points superposés n'étaient pas un point final, parce que précisément, leur fonction, le plus souvent, c'est d'annoncer ce qui en vient dans le texte. Ça peut être une citation, ça peut être une énumération. Ça peut être une explication, ça peut être une synthèse, ça peut être une conclusion. Alors, cette conclusion, voyez-la, non pas comme un point final, mais comme deux points de suspension qui permettront en tout cas d'écrire ce qui vient par la suite. Et je ne vais pas donc être celui qui écrit seul ce qui vient par la suite, mais chacun de nous est appelé en quelque sorte à s'inscrire et inviter, encourager à s'inscrire dans ce qui va venir par la suite. Et ce qui vient par la suite, y compris dans la pensée de Scazzero pour nous inviter à aller plus loin, c'est changer la culture de l'Église. Alors, changer la culture de l'Église, mais qu'est-ce que ça va vouloir dire? Et en plus, poser comme ça, moi j'ai l'impression que ça nous fait peur. Changer, nous n'aimons pas le changement. On sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on n'a pas encore. Nous craignons le changement. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on étudie la résistance au changement. Alors bien sûr, aucun de nous n'est a priori résistant au changement. Mais chaque fois que vous vous prenez un mur ou une cloison qui porte le nom de « on ne fait pas comme ça », « on n'a jamais fait comme ça », « il faudrait peut-être faire comme avant », « pourquoi est-ce qu'on veut changer ?» Oui, nous voulons changer, mais pas comme ça. Oui, nous voulons changer, mais dans 3 ans. Oui, bien sûr, nous sommes d'accord, mais ça ne change jamais. Eh bien, ça s'appelle la résistance au changement. La culture, contrairement à la nature, c'est de la construction. C'est de l'acquisition. La nature, c'est du donné. Je la reçois. Ma nature, je ne la suis pas construite. Je l'ai reçue comme un don, mon corps, ma sexualité. Mais la culture, c'est tout ce que je vais intégrer. Des croyances, des discours, des non-dits, des rites, des rituels, des comportements, etc. Des schémas de pensée. Et même des impensés, les angles morts. C'est tout ça qui fait en quelque sorte cet élément diffus dans un groupe qu'on appelle la culture d'un groupe. Il y a une discipline en étude des systèmes et des groupes qui consiste à étudier la culture des groupes et la dynamique des groupes. Et l'Église, en tant que groupe humain habité par l'Esprit, bien sûr, de Jésus, n'échappe pas aux réalités des dynamiques de groupe. Il faut que nous en soyons quand même conscients, tout en étant chrétiens et habités par le Saint-Esprit. Il y a bien de comportements, bien de manières de faire et bien de manières d'être qui ne sont pas forcément celles de l'Esprit-Saint uniquement, mais qui obéissent ici aux lois des groupes. Vous arrivez dans un groupe, vous voyez très vite les autochtones, ceux qui sont natifs du groupe. C'est pareil si vous venez dans ma famille. Vous allez voir qu'il y a les autochtones. Ils se comprennent. Ils partagent l'histoire très longue. Ils partagent la mémoire des événements. Ils partagent des anecdotes. Et puis, il faut apprendre à découvrir. Et c'est précisément tout ça qui fait qu'on distingue les autochtones de ce qu'on appelle les allogènes, les autres, à l'os, qui arrivent. Donc, la culture, c'est un peu comme le sel et le sucre dans l'alimentation. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas toujours le sel et le sucre dans ce que vous mangez qu'il n'y a pas de sel ou pas de sucre. La culture est partout. Et la culture de l'église locale est partout, même quand vous ne voyez pas où elle est. C'est un peu comme la poussière aussi. Vous ne la voyez pas toujours. Mais elle est là. Elle est là. La question n'est pas de savoir s'il y a une culture d'église. Il y en a forcément. La question est de savoir si nous nous autorisons à faire passer cette culture de l'église au crible de l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que l'évangile de Jésus-Christ est le critère objectif par lequel nous devons voir et critiquer au sens d'évaluation, d'examen, de questionnement, la culture d'un milieu donné. Pardon d'une référence un peu personnelle. Dans la culture des pays Bamileke, région d'où vient mon épouse, la croyance est forte que les morts ne sont jamais morts. Ils sont juste en voyage. Un peu comme dans l'Égypte antique. Et que dans leur voyage, ils traversent des étapes. Et que de là où ils sont, quand ils se rejoignent avec les ancêtres, ils continuent de regarder leur maison. Et d'intercéder, et d'agir, et d'influencer, en bien ou en mauvais, la vie de la maison. Alors, au bout de 10 ans, 15 ans, on va organiser de grandes funérailles. On va ouvrir le tombeau à nouveau et on va le prendre, le crâne du mort. Et ça sera une grande fête de joie. Pourquoi ? Parce qu'il va rejoindre les ancêtres dans la maison des crânes qui est juste au fond de la cour de la concession. Et enfin, il va entrer comme dans ce panthéon avec des danses, des chants. Et on va y verser du sel, on va tuer des animaux en sacrifice et tout pour que les ancêtres accueille bien cet enfant qui retrouve enfin la maison, mais aussi pour qu'il continue de garder la maison, de bénir, tant et si bien que quand il se passe des choses qui ne vont pas, quelqu'un qui décède jeune, des familles qui se divisent, des problèmes qui nous dépassent à comprendre, alors on va à la maison des ancêtres, refaire le rituel, les apaiser, les questionner, leur dire nos problèmes. Et quand on devient chrétien dans un tel contexte, on ne dit pas simplement c'est ma culture, je continue comme si de rien n'était. On se rend compte que l'évangile, que la croix est un message transculturel. Il est capable de rencontrer la culture, mais il ne se laisse pas prisonnier de la culture. Il transcende la culture. Il confronte la culture. Et il change quelque chose dans la culture. Et donc pour ma belle famille, ça a été une rupture avec cette pratique. Rupture qui vous isole dans la société, dans la communauté. Rupture qui vous fait montrer du doigt comme ayant trahi la chaîne historique. Parce qu'en plus, il y a ce qu'on appelle le syncrétisme. C'est-à-dire un mélange à la fois de la foi chrétienne et des croyances traditionnelles et ancestrales. Et ce n'est pas parce que ça se passe en Afrique qu'il n'y aurait pas un syncrétisme religieux dans les pays où nous vivons et dans nos églises. On peut accepter Jésus, on peut lui ouvrir son cœur et continuer d'avoir les idoles de notre cœur. Je ne prêcherai pas là-dessus, mais je suis sûr que ça viendra. Et on peut être dans ce syncrétisme religieux, adorer le Seigneur par le Saint-Esprit, nous réjouir comme on le fait ce matin, et en même temps avoir nos petits temples, nos petits autels chez nous, symboliquement ou réellement en nos cœurs. Je ne vais pas plus loin pour ne pas empiéter sur une autre prédication. Alors la question est, sommes-nous prêts à un changement de système d'exploitation? Peter Scazzero prend cette belle image. Voyez-moi ici, c'est même déjà très vieux, parce qu'aujourd'hui on a le cloud, on a le nuage. J'ai ici deux ordinateurs, en fait deux disques durs, de mes anciens ordinateurs, parce que je ne veux pas perdre les données qu'il y a là-dedans. Mais ça ne me sert à rien au quotidien. Pourtant, il y a des prédications, il y a des cours de théologie, il y a des photos et des souvenirs, etc. Mais je n'y ai pas accès. Ça ne me sert de rien. Tout ce que j'ai mis ici n'est pas activé. Je n'y ai pas accès. De même, si vous avez un ordinateur, parce qu'aujourd'hui on a les SSD et puis on a des possibilités de stockage sur le cloud. De même, si vous avez un ordinateur et que vous n'avez pas de système d'exploitation, je parle sous le contrôle peut-être de Benjamin, n'est-ce pas, qui est informaticien. Je me suis dit que j'allais peut-être te donner la parole pour que tu nous dises c'est quoi un système d'exploitation. Mais en tout cas, j'ai compris que c'est l'intermédiaire entre ma machine dure, les cartes mères, les mémoires et tout. Et c'est ce programme qui va me permettre, en quelque sorte, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités pour pouvoir utiliser mon ordinateur et les différentes données. Alors, rapidement, parce que moi, je ne suis pas informaticien, c'est la slide suivante. Rapidement, voyez, c'est petit, hein? Non, mais ça arrive, le grand écran arrive, ne vous inquiétez pas. Il va nous permettre un système d'exploitation, n'est-ce pas, de gérer différentes fonctionnalités. Gestion de la mémoire, l'interface qu'on va utiliser, la gestion des données qui entrent, qui sortent, la gestion de nos applications. Et puis, vous avez des systèmes d'exploitation plus connus, Windows, Mac OS, on en a un là-bas au fond, et moi j'ai connu Linux. Mon ordinateur, c'était avec Linux et il s'appelait, voilà, c'est un système Ubuntu. Ça te parle? Ça vient d'Afrique du Sud. La communauté, le partage, Ubuntu. C'était déjà l'idée qu'il faut être open source. C'est-à-dire qu'il faut mettre en réseau nos savoirs, un peu Wikipédia en quelque sorte, avant l'heure. Pourquoi payer un système d'exploitation capitalisé alors que Benjamin sait faire, plus David, plus Paul et tout, on peut mettre tout ça ensemble, on fait tourner une machine et les gens l'utilisent gratuitement. Et ceux qui sont plus perfectionnés, continuent de perfectionner le système. C'est l'Ubuntu. C'est un peu l'église. Ubuntu. J'aime ça. Donc moi, j'ai été pendant un certain temps avec Linux. Le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de compatibilité entre telle application et tel système. Au début des iPhones, comme tout le monde, j'avais l'iPhone 1. Après, j'ai eu l'iPhone 2. Après, j'ai eu l'iPhone 3. Et après, j'ai compris que c'était jusqu'à ce que Jésus revienne, il y aura toujours un numéro. Et surtout, ce qui m'embêtait, c'est qu'il fallait faire tellement de mises à jour et de téléchargements et que certaines fonctions n'étaient pas compatibles avec mon téléphone. Donc, j'ai changé pour prendre quelque chose de moins cloisonné. Mais quand même, quand vous êtes dans la communauté iPhone, c'est un peu comme si vous êtes au CMLK, vous voyez quoi. Il nous faut donc, en avance s'il vous plaît, apprendre à critiquer notre culture. C'est à ce moment que je vais citer pour la première fois un texte de l'Écriture, la parole de Jésus. Posons-nous la question, est-ce que la culture de notre église locale nous permet pleinement de vivre ce qui est écrit ici? Est-ce que la culture de notre église locale nous permet à chacun de ses membres de vivre pleinement ce qui est écrit ici? Jésus s'approcha de ses disciples, nous sommes au chapitre 28 de Matthieu. Jésus est ressuscité, nous allons le rappeler dans 15 jours. Il s'est montré à ses disciples incrédules. Il leur a donné rendez-vous, il va partir. Mais avant, il veut leur donner une parole de confiance. J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Vous pouvez me faire confiance. Je vais partir, mais j'ai le contrôle sur vos vies et sur l'univers. Cette parole de confiance est le fondement de ce qui va suivre. C'est parce que Jésus a tout pouvoir sur les nations. C'est parce que Jésus a tout pouvoir sur les cœurs. C'est parce que Jésus a tout pouvoir sur la totalité de la création. Et c'est parce qu'il veut que nous amenions la totalité de l'évangile à la totalité des nations pour faire connaître la totalité du salut. Il y a un mot savant pour ça, une vision holistique, globale. Qu'il commence par nous dire tout pouvoir. Ce n'est pas une question de est-ce qu'il a le pouvoir ? Est-ce que j'ai le pouvoir ? Moi, je n'ai pas le pouvoir de faire changer quoi que ce soit dans une église locale. Jésus ne m'a pas donné ce pouvoir-là. Et je pense qu'il n'a pas donné ce pouvoir à quiconque dans l'église locale. Pas un conseil, pas un pasteur, à personne. C'est lui qui a reçu tout pouvoir. Mais par contre, il a donné autorité, une autorité déléguée. Souvent, nous confondons le pouvoir et l'autorité. Et un jour, je ferai une prédication, peut-être sur pouvoir et autorité, pour les distinguer. Mais retenons simplement que Jésus a le pouvoir, mais il délègue autorité. Et l'autorité qu'il va déléguer ici est une autorité de mission, une autorité de service pour le monde. Allez! Allez! Dans le monde entier, faire des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les, allons le vivre dans quelques jours, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom d'une église locale, au nom du Dieu trinitaire, et enseignez-leur la formation à obéir à la transformation de cœur et de vie concrète, à tout. Ce n'est pas à la carte, ce n'est pas le resto. Tout ce que je vous ai prescrit. Et souvent, nous oublions ça et nous sautons à la promesse. Et voici, je suis avec vous. Tous les jours, quand vous faites ça, pendant que vous faites ce travail que j'ai dit plus haut, on ne peut pas séparer cette promesse de la fin. Je suis avec vous tous les jours de ce qui précède. Jésus est avec son Église tous les jours dans sa mission. Pas tous les jours lorsqu'elle est repliée sur elle-même. Pas tous les jours où elle s'enferme sur elle-même. Bien sûr, il est là. Mais ce qu'il veut dire, c'est en allant qu'on va l'expérimenter. C'est en allant qu'on va voir qu'il est là. C'est en allant qu'on va voir qu'il a tout pouvoir. C'est en allant qu'on va voir qu'il touche encore les vies. C'est en allant qu'on va voir qu'il guérit encore les malades. C'est en allant qu'on va voir qu'il console encore les affligés. C'est en allant. Et c'est en ouvrant. Mais pour cela, il nous faut être critique sur le logiciel, sur le système d'exploitation à partir duquel nous essayons de gérer la vie de l'Église. J'ai la joie de travailler avec une équipe, un conseil, qui est pleinement conscient et pleinement désireux que nous puissions aller ensemble vers cette dynamique, parce que cette dynamique, elle a commencé dès la fondation de cette Église. Ce que nos pères, nos mères qui nous ont précédés dans l'histoire de cette Église ont eu, ce n'est pas simplement de faire une famille. C'est ça, un marqueur de notre culture du CMLK, de l'Assemblée chrétienne baptiste de Nîmes. Une famille, tu l'as dit Hélène, une famille, et c'est beau. Mais c'est quoi une famille? Une famille, c'est en général là où je suis né. Une famille, c'est en général des liens que je n'ai pas choisis, mais que j'apprends à accueillir. Une famille, c'est peut-être pour vous un lieu refuge. Une famille, c'est peut-être le lieu de l'apprentissage de la fraternité, de la sororité. Une famille, c'est peut-être le lieu de l'apprentissage et du vécu de la solidarité, de la complémentarité. Mais aussi une famille, on le voit dès la Genèse, est aussi le lieu du conflit, et parfois même du conflit mortifère, Caïn et Abel. Mais c'est aussi le lieu des restaurations, des ruptures, des liens significatifs brisés, heurtés. Mais nous voulons être une famille en Christ. En Christ, c'est essentiel dans notre vision. Où sa vie jaillit en abondance. C'est-à-dire qui déborde le cadre de ceux qui sont déjà présents. Ma crainte, je vous l'exprime simplement, c'est que nous voulions être une famille tout court. Et que, en voulant l'être, pour ceux qui arrivent, comme je suis arrivé il y a 18 mois, on peut avoir du mal à se sentir appartenir. On peut être longtemps en attente d'être adopté. Parce que l'adoption existe, nous sommes tous adoptés dans la famille de Dieu. Et nous avons repéré ce défi dans notre Église. Et nous voulons y travailler. Il y a des commissions qui sont au travail pour que personne ne reste à l'écart, pour que tous se sentent adoptés dans la famille de Dieu et dans la famille CMLK. Jésus nous invite à changer de culture. Dans le schéma traditionnel de notre vision de l'Église, j'ai mis ici l'Église tout à la fin. C'est-à-dire que, finalement, on considère que l'Église est le point terminal, final, est la finalité. Hello! Connais-tu Jésus? Je connais un groupe de gens sympas qui louent le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit. Viens! Et quand il vient, il est un peu perdu au milieu de nous. Mais il se passe quoi? Où est ma place? Je fais quoi? On lui dit, en fait, on va t'équiper une clé, internet, tu vas faire tel service. On dit que c'est comme ça qu'on trouve sa place dans l'Église, en faisant un service. Et puis après, tu es dans l'Église, boum! Et tu deviens le MacGyver de l'Église. Cette vision, elle existe. Elle existe aussi avec un soutien biblique. Oui, hello, il faut parler de sa foi. Oui, c'est bien les petits groupes où on peut louer le Seigneur, où on peut démontrer l'amour. Oui, c'est bien le service. Oui, c'est bien l'Église. Le Christ s'est donné pour elle. Mais il y a quand même un problème dans ce schéma. C'est de faire de l'Église le point final, la station finale. Et j'ai peur, mes amis, qu'inconsciemment, nous ne soyons plus dans la dynamique de l'origine. Ouverte vers la ville, plus loin que la ville, et que peut-être nous essayons de rester en Église. Moi, je suis ici toutes les semaines. Et les moments où je suis le plus en joie, c'est des moments comme hier, où il y avait ici 20 combien de familles? Myriam, aide-moi, 16 familles plus les 5 qui ont accueilli, qui ont organisé, combien? 21 familles. Famille, pas personne. Donc ça faisait du monde quand même. Et pendant de 10h à 16h30, vous nous avez bénis. J'ai vu une vocation de ce lieu. Pas juste être un lieu de culte le dimanche ou de quelques réunions en semaine, mais un lieu de vie tout au long des semaines, un lieu de guérison des cœurs, un lieu de soutien des couples, des familles, un lieu qui vit. Je nous engage à prier dans cette direction, frères et sœurs. Pour entrer dans une conversion missionnelle, c'est la slide suivante, Joseph. Oui, toujours on dit « Hello, est-ce que je peux te parler de ce qui a changé ma vie ?» Oui, c'est Jésus et autres. Mais ce Jésus, où est-ce que je peux le voir? Eh bien, tu peux le voir dans mon église, peut-être. Pourquoi pas? L'église fait partie du projet de Dieu. Ben, ici, simplement l'église, pour la plupart des gens, c'est un bâtiment. Pourquoi pas? Il faut bien un lieu pour se retrouver. Mais nous ne voulons pas être un bâtiment. C'est pas le CMLK n'est pas un bâtiment. Je veux partager vraiment mon cœur. Le CMLK n'est pas un bâtiment. Dieu ne nous a pas donné un peu plus d'un hectare pour juste être un bâtiment. C'est un outil puissant pour la mission. Et c'est pour ça que je me lève encore chaque matin. Et c'est pour ça que je suis encore au milieu de vous. Parce que je suis profondément tombé amoureux de cette outils. Ça va nous prendre du temps pour aller continuer les lignes tracées par ceux qui nous ont précédés. Tous ceux qui nous ont précédés, jusqu'au relais que Norbert m'a passé. Jean-Louis, avant Jean-Louis, tous ceux qui nous ont précédés. Une chose que je vois qui a été sur leur cœur, c'est que l'Église soit toujours un instrument de bénédiction qui impacte la ville. Un cœur pour l'Église de Jésus et un cœur pour la ville. Et quand on découvre ça, l'Église n'est plus simplement le lieu où je sers, mais ça va devenir le lieu, la même photo à côté, le lieu de formation, le lieu qui m'outille, le lieu qui m'équipe. Nous sommes en Jésus-Christ, frères et sœurs, une communauté de disciples en apprentissage. Jésus veut faire de nous une communauté de disciples en apprentissage, une communauté missionnaire et missionnelle. Non pas pour servir l'Église. Jésus n'a pas besoin vraiment de nous de manière essentielle pour servir l'Église. Il a rendu à l'Église son plus grand service, il a donné sa vie pour elle. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Par contre, il a suscité l'Église pour être une ambassade, un centre d'entraînement, un centre de formation, un centre d'équipement pour les saints, pour l'édification des saints. Pourquoi? Au final, pour aller annoncer au monde le poids de sa gloire. L'Église n'est pas à la fin. Elle est un moyen pour la grande mission de Dieu. Est-ce que nous sommes dans ce changement de paradigme? Est-ce que nous prions pour l'intégrer, pour l'accompagner? Est-ce que nous l'acceptons? Et donc ça change quelque chose. Ça change la façon dont nous pensons nos activités. Ça change la façon dont nous pensons notre vie d'église. Le schéma précédent a une pente insidieuse qu'on ne voit pas. Ça risque de faire des églises des organismes de prestation de services religieux. Où on consomme son culte, sa réunion de prière en semaine, il y en a de moins en moins d'ailleurs dans les églises, d'études bibliques autrefois, il y en a de moins en moins, mais on a les réunions de partage, de communion fraternelle, c'est très bien. Et puis de temps en temps, où il se passe un événement, alors on vit parfois dans ce schéma traditionnel, ce n'est pas le cas ici, hein, je ne sais pas de nous critiquer, mais on a aussi notre part de critique hein, à entendre, où on investit l'évangélisation, la mission comme une activité. Mais ici, c'est une vie tout au long de la semaine, tous les vendredis. Mais pour chacun de nous, ça doit être une vie tous les jours. Commençons par moi. L'Église n'est pas un organisme de prestation de biens et de services religieux. Je ne suis pas un professionnel au service d'une organisation religieuse. Nous sommes frères et sœurs sauvés, rachetés par le Christ, disciples appelés à faire des disciples pour la gloire de Dieu. Et ça, ça change tout. Ça veut dire que je ne viens pas d'abord à l'Église pour me faire du bien, même si je dois en ressortir en ayant été heureux, béni. Ça veut dire que l'Église doit changer sa façon de faire et de voir. Elle doit aussi prendre en compte ceux qui ne sont pas encore là. Est-ce que notre manière de faire permet à ceux qui ne sont pas encore là, à ceux qui n'ont pas grandi ici, à ceux qui n'ont pas grandi dans une famille chrétienne, de comprendre notre langage, de comprendre notre manière de vivre le culte, de comprendre en quelque sorte ce qui nous anime? Nous avons un travail à faire sur la culture de notre Église locale, pour laisser le Christ la changer. Et comme c'est quelque chose qui est comme le sel et le sucre, je le rappelle, qu'on ne voit pas forcément, mais qui est là dans nos aliments, eh bien nous avons besoin que le Christ nous montre. Et c'est la somme de nous tous. Formons le terreau de cette culture. Mais la culture, ce n'est pas simplement la somme de nous tous. C'est quelque chose que nous avons créé, appris, et dont nous pouvons désapprendre. C'est quelque chose que nous avons construit, et donc il y a aussi des choses à déconstruire peut-être. Mais on gagne à le vivre. Je voudrais faire une deuxième référence biblique. Je vais aller rapidement pour conclure. Je nous rappelle simplement que dans ce passage de Jean 15, Jésus parle du cep et de la vigne. La vigne, le cep et les sarments. Jean chapitre 15, versets 10 à 17. Je voudrais lui donner le micro. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Tout cela, je vous le dis, pour que la joie qui est la mienne vous remplisse vous aussi et qu'ainsi votre joie soit complète. Voici quel est mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Je voudrais conclure avec trois choses sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir. Trois valeurs qui animent profondément la philosophie de mon ministère parmi vous. Dans la soumission à la collégialité du conseil et à la collégialité de l'Église, mais qui animent profondément le sens de ce service à rendre. Nous sommes un lieu que je vois comme un lieu où les uns et les autres viennent pour être. Jésus, ici, dans ce passage, nous dit, vous êtes déjà mes amis, mes disciples. Nous voulons en ce lieu que chacun soit enseigné, encouragé, soutenu dans une vie personnelle, authentique de disciple dans tous les domaines de sa vie. Être avant de faire est une conséquence de ce que nous avons appris pendant cette série de parcours. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans le temps court. Et je sais beaucoup de frustration parce qu'on se dit bientôt 2 ans et qu'est-ce qui a changé? Mais nous ne travaillons pas dans la précipitation. Nous voulons poser ensemble et en équipe, avec le conseil, avec les commissions et avec tout le monde, les bases d'une prochaine étape qui rééquilibre entre l'activisme et l'être. Et l'être. Nous ne voulons pas être comme un lac impressionnant par sa largeur, mais complètement ridicule par sa profondeur, 2 centimètres. Mais nous croyons au contraire que chacun, en encourageant son frère, sa sœur, à approfondir sa relation avec le Christ, deviendra un torrent d'eau, d'amour, d'esprit jaillissant qui rayonne. Je vous demande, frères et sœurs, humblement, la prière pour que le Seigneur nous aide à ne pas dévier de ce premier objectif. Le sarment ne peut pas être autre chose d'abord que d'être relié au cep. S'il n'est plus relié, c'est une branche qui meurt, qui est utile, mais pour faire du feu. Nous voulons donc encourager une spiritualité authentique. Nous voulons encourager une spiritualité qui ne sépare pas le paraître et l'être. Une spiritualité qui ne cache pas sa vulnérabilité. Je n'ai pas tout fait juste. Je n'ai pas tout bien compris. Je n'ai pas tout bien vécu. Mais je suis en marche avec le Seigneur. Une spiritualité de l'enracinement. Ça prend du temps. Et ce qui se voit, ce n'est pas ce qui prend le plus de temps. Ce qui va se voir dans 15 jours, 14 jeunes et moins jeunes baptisés, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ce qui va prendre du temps, c'est de marcher avec un à un. C'est qui les accompagnera pour la prochaine étape. Vous savez, dans le livre des Actes que nous avons lu, à un moment donné, on nous parle d'Apollos. Apollos était éloquent. Apollos connaissait l'Écriture et Apollos prêchait dans les synagogues. Et il y avait là Priscille et Aquilas. Ils l'ont entendu. Mais Luc nous dit qu'Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Jean-Baptiste qui prêchait un baptême de repentance. Et Luc nous dit que Priscille et Aquilas prirent avec eux Apollos et lui enseignèrent encore plus exactement la voie du Seigneur pour qu'il grandisse. As-tu un Apollos? Es-tu un Priscille, un Aquilas? Es-tu un Apollos pour quelqu'un d'autre? Nous voulons être cette communauté où on est avant de faire. Nous voulons être cette communauté attachée au CEP, où le Christ nous dit qu'il veut que nous le connaissions davantage, connaître. Il dit qu'un ouvrier, un esclave ne connaît pas son maître. Et on a chanté que nous ne sommes plus esclaves de la peur. Il dit, je vous ai appelé amis. Connaître, c'est partager, c'est participer, c'est se laisser rejoindre aussi dans l'intérieur. Ce n'est pas une connaissance simplement intellectuelle. C'est une connaissance aussi du cœur, une transformation du cœur. Mais nous voulons aussi être un lieu où on peut offrir une connaissance biblique solide, théologique solide, pratique solide. C'est la raison pour laquelle dans 2 jours, j'aurai encore une réunion avec la faculté Jean Calvin. Pour que ce lieu soit un lieu d'enseignement, soit un lieu de formation tous azimuts. Et enfin, ça ne sert à rien si c'est pour rester entre nous. Nous voulons être mobilisés par ce verbe, transmettre. Jésus reprend ici dans Jean 15 ce qu'il a dit dans Matthieu 28. Je vous ai choisi, je me suis révélé à vous afin que vous alliez. Tout le monde peut transmettre. Tout le monde peut partager ce que Dieu fait dans son cœur. Tout le monde peut partager ce qui, là où il en est. Tout le monde peut transmettre. Et ce schéma permet de libérer les charismes et les dons de tout le peuple de Dieu. Parce que tous ne seront pas eus dans une activité pour des raisons d'âge, de santé, de disponibilité, mais tous peuvent transmettre. À la maison, à un petit enfant, à un enfant, à un voisin, tous peuvent transmettre. Mais pour transmettre, il faut une église qui enseigne, qui forme et qui envoie. Que le Seigneur nous fasse cette grâce de le vivre pour sa gloire. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hélène, tu m'as demandé d'introduire la Sainte Cène. J'aime de temps en temps des textes qui sont simples mais bien écrits et dont je vais juste l'introduire.